Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir à tous. Retour dans l'émission de ce soir sur le 4e sommet mondial du partenariat pour un gouvernement ouvert. Il se tient ces jours-ci à Paris. Derrière des mots qui, mis tous ensemble, ne vous disent peut-être rien, il y a en fait une volonté internationale d'améliorer, de réparer nos démocraties en berne. Alors que les aspirations à la transparence de l'action publique sont de plus en plus fortes, que les votes populistes se sont succédés ces dernières semaines, que l'abstention est parfois massive dans certains pays, comment faire émerger de nouveaux modes de participation et de vigilance citoyenne? C'est la question qui réunit jusqu'à demain à Paris 4500 participants de 70 pays différents. Et à cette question, une réponse: il faut un gouvernement ouvert ou open government. Et pour ce faire, le numérique serait une véritable opportunité, nous dit-on. Alors OpenGov, gadget ou réel accélérateur démocratique? C'est le débat ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités dans ce studio. Amélie Banzé, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des affaires internationales d'État Lab au service du Premier ministre en charge du gouvernement ouvert, justement. Deuxième invité, Lancelot Péquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes fondateur d'une association, République Citoyenne, et vous allez nous l'expliquer dans le cours de l'émission. Vous êtes l'un des signataires d'une pétition dont on va parler. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on écoute François Hollande, qui a prononcé le discours d'ouverture de ce sommet, c'était hier, et il est au micro de Stéphane Lagarde.
Si la démocratie n'est pas renouvelée, si elle n'est pas appropriée par les citoyens eux-mêmes, les risques de son dépérissement sont possibles. Voilà pourquoi notre réunion n'est pas simplement pour échanger des bonnes pratiques. Ce que nous devons faire, ce n'est pas défendre la démocratie comme si elle était attaquée et nous barricader. C'est tout le contraire. Nous devons nous ouvrir, nous devons être transparents, nous devons montrer que nous sommes accueillants à toutes les initiatives, que les administrations, les États n'ont rien à craindre des citoyens. Et les citoyens, tout à espérer des États dès lors qu'ils les respectent. Ce que nous avons à faire, c'est que les citoyens aient envie de la démocratie. Voilà l'enjeu de ce sommet. Merci.
Voilà donc, commençons par le constat, Lancelot Péquet. Est-ce que vous partagez cette vision du président Hollande? Si la démocratie n'est pas renouvelée, elle est en danger.
En ce qui concerne la parole elle-même, je suis tout à fait d'accord avec ce constat, oui. Absolument. D'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'il faut que les citoyens aient envie de la démocratie, oui.
Et alors, qu'est-ce que ça veut dire quand il dit qu'il faut ouvrir la gouvernance, finalement?
Ouvrir la gouvernance, c'est déjà mettre en accord les paroles et les actes pour que cette gouvernance puisse avoir un sens. Et puis, ouvrir la gouvernance, donc ça veut dire mettre autour d'une même table pour définir des objectifs communs, pour les suivre ensemble, pour travailler ensemble. Des représentants des administrations, éventuellement des politiques, des représentants d'associations, prendre l'avis des citoyens et en tenir compte.
Donc en fait, c'est finalement intégrer le citoyen mieux, comme il ne l'est pas assez, dans le processus de décision?
Donc c'est dans le processus éventuellement de décision ou d'élaboration. C'est en fait un processus qui passe par un certain nombre d'étapes. Mais en tout cas, un point fondamental par rapport à ça, c'est qu'il ne faut pas faire semblant. Il faut vraiment associer. Quand on dit qu'on associe les gens, il faut vraiment les associer.
Alors, je vois où vous voulez en venir. Vous allez nous parler de la pétition. Juste peut-être un premier mot, Amélie Banzé. Alors, François Hollande met aussi en garde dans l'extrait du discours qu'on vient d'entendre. Ce sommet ne doit pas être qu'un endroit où on échange ses expériences. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une réunion internationale de ce type? Des promesses, des actions?
Alors, moi, je crois qu'aujourd'hui, en effet, enfin, comme le soulignait le président, il y a une vraie attente des citoyens pour que la démocratie évolue. En effet, à l'ère du numérique, à l'ère où tous les citoyens aujourd'hui peuvent trouver n'importe quelle information sur Internet et peuvent parler en direct très rapidement à travers les réseaux sociaux, à travers les messages à leurs élus, aux agents publics, ils ne comprennent pas que ce ne soit pas encore tout à fait fluide et normal. Et donc, ce sommet, c'est en effet toute cette communauté internationale, ce dialogue international qui se crée pour échanger sur ces nouvelles pratiques. La révolution numérique, c'est encore très récent. On apprend et c'est ça qu'on attend de ce sommet. Et il faut apprendre, mais il faut aussi en effet mettre en œuvre. Et donc, on attend des actions concrètes. On attend que ensemble, au niveau international, ce qui nous aide à avancer au niveau national, on puisse se dire comment on va faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre, quel outil on va utiliser, développer ensemble des outils, développer des ressources, s'échanger les ressources, se mettre en partage des ressources pour pouvoir mettre
Est-ce que la forme du sommet international est la bonne ? Un sommet, c'est souvent des promesses, des déclarations d'intention, rarement de vraies décisions. Est-ce que là, cela vous semble être adéquat ?
Alors, c'est pas juste un sommet, c'est un effort. Alors, la France a rejoint le partenariat pour un gouvernement ouvert en 2014. C'est un partenariat qui existe depuis 2011, qui est passé de 8 pays en 2011 à 70 pays aujourd'hui
Et peut-être bientôt d'autres, notamment sur le continent africain.
Voilà, il y a des nouvelles adhésions. L'idée, c'est quand même d'avoir... Enfin, c'est un dialogue mondial et les échanges de bonnes pratiques peuvent se faire au niveau mondial. Et cette diversité est importante, d'ailleurs. Donc, le sommet, c'est juste un temps fort que le partenariat organise tous les deux ans pour un peu donner l'occasion à toutes ces personnes qui participent à cette discussion de se réunir dans un endroit, de se mettre autour de la table et de dire comment est-ce qu'on avance ensemble. C'est aussi un temps fort de communication parce que c'est quand même ça, mais la communication c'est aussi ça qui fait prendre conscience.
Alors
c'est
on va y venir, puisque l'enjeu évidemment, et on pourra peut-être faire le parallèle avec la COP21, c'est aussi de sensibiliser et de parler à des gens qui connaissent pas nécessairement bien le sujet. Lancelot Péquet, sur la forme du sommet, est-ce que vous aussi ça vous semble être une bonne idée, ou est-ce que bon, on aurait pu choisir une autre manière de faire connaître le sujet?
Dans le partenariat pour un gouvernement ouvert, de toute façon, il est prévu qu'il y ait des sommets. Pour avoir participé à un certain nombre d'entre eux, je trouve que celui-ci est tout à fait intéressant. Effectivement, comme le disait Amélie, le sommet, ça ne résume pas le gouvernement ouvert. Le sommet, c'est l'occasion de créer des liens, de renforcer des liens existants, d'une part entre les organisations de la société civile qui travaillent pour certaines d'entre elles sur les mêmes sujets, et peut-être aussi pour ajouter un complément à ce qui vient d'être dit. Certes, le numérique est un sujet important, mais en réalité, les problématiques qui sont abordées pendant ce sommet et dans le cadre du partenariat pour un gouvernement ouvert en général, c'est des sujets beaucoup plus vastes que le numérique. Par exemple...
Concrètement, aujourd'hui, vous avez fait quoi ? Parce que je pense que c'est ce que demandent nos auditeurs. Là, on a beaucoup de formules qui sont un petit peu des principes, mais incarnez-les. Vous avez fait quoi aujourd'hui ?
Je vais vous expliquer. Ça fait plusieurs jours qu'on dort très très peu parce qu'on est extrêmement mobilisé sur ce sommet. Mais pour ma part, je parle avec énormément d'associations françaises et internationales qui sont très intéressées par ces sujets-là, avec aussi beaucoup de journalistes qui découvrent aussi un petit peu ces sujets et qui découvrent que c'est une opportunité pour faire un certain nombre de choses et peut-être aussi des risques qu'il faut adresser. Et donc, aujourd'hui, j'ai animé une table ronde internationale avec une représentante du comité de direction du partenariat pour un gouvernement ouvert. Donc, je crois qu'elle est de Croatie. Il y avait quelqu'un qui travaille pour une association qui s'appelle Open Knowledge, qui habite en Israël. À ma droite, il y avait quelqu'un du Kazakhstan et quelqu'un de Mongolie. Dans la salle, il y avait des dizaines de personnes du monde entier.
Des pays où les démocraties sont pas du tout au même stade.
Absolument, des pays où les démocraties sont pas du tout au même stade. En fait, on échange avec... c'était essentiellement des gens de la société civile, donc des représentants d'associations qui étaient dans la salle. C'était très participatif, donc le micro a circulé à l'intérieur de la salle. Et on a abordé avec ces gens un certain nombre de problèmes de fond sur, par exemple, comment on fait pour une participation qui part simplement aujourd'hui, peut-être de... trop centré sur les élites, à une participation où finalement les choses qui importent vraiment à monsieur et madame tout le monde sont prises en compte. Ça, c'est absolument fondamental. C'est pas quelques petites personnes comme ça qui se réunissent au cours d'un sommet qui vont résoudre les problèmes du monde.
Alors, Lancelot Péquet, vous nous dites que ce sont des moments intéressants et pourtant certaines associations, certains membres de ce grand partenariat ne sont pas venus, ont signé la pétition comme vous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit cette pétition ? Vous pointez des contradictions du gouvernement français, ça veut dire quoi ?
En fait, ce qu'on explique, c'est que le partenariat pour un gouvernement ouvert nous invite à nous engager sur une amélioration de la démocratie avec un plan d'action. Donc ce plan d'action, il est en principe construit entre les gouvernements et la société civile à travers un processus où finalement on se met d'accord sur un certain nombre d'objectifs. Bon. Ce plan d'action, il a été publié en juillet 2015. Il présente un certain nombre de progrès.
Mais
en réalité, il ne recouvre qu'une toute petite partie des problématiques majeures auxquelles la démocratie française est confrontée. Et en particulier, il y a des reculs en matière de droits fondamentaux qui ont été pointés par énormément d'associations et qui ont fait que même, par exemple, l'État a été condamné par la Cour de cassation pour des interpellations, pour des contrôles au faciès. Que le Conseil d'État a publié un document dans lequel il explique que le gouvernement ne fait pas son travail en termes de consultation dans le cadre des processus de consultation constitutionnelle, alors qu'on nous annonce, par exemple, comme priorité dans le partenariat pour un gouvernement ouvert, les communs, les biens communs, donc numériques en particulier, On a observé un gouvernement qui faisait obstruction en fait à la construction de ces communs dans la loi numérique. Donc en fait, il y a un certain nombre de choses qui nous posent vraiment problème entre les paroles et les actes.
Alors Amélie Bonzet, pourquoi la France a raison d'organiser ce sommet aujourd'hui ? En quoi est-ce qu'elle est légitime à le faire ?
Alors, la France, alors déjà, elle est légitime à le faire parce qu'elle est coprésidente du partenariat et que dans la tradition du partenariat, depuis qu'il existe en tout cas, le coprésident, tous les deux ans, organise et accueille le sommet. Mais ce qui est important pour la France aussi, c'est ce que vous disiez, c'est de sensibiliser, mais sensibiliser l'opinion publique à ces sujets, montrer qu'il y a des avancées, montrer qu'il y a des choses qui se font, sensibiliser les politiques aussi. Parce que c'est aussi ce sommet, c'est aussi une façon de mobiliser les politiques, de mobiliser les ministres qui ont d'ailleurs tous participé et pour la mission Etalab pour laquelle je travaille et qui est responsable, donc qui porte ce sujet du gouvernement ouvert, c'est une façon aussi de mobiliser en effet cette force politique qui peut faire aussi avancer les choses et de mobiliser les différentes administrations pour qu'elles travaillent sur le sujet aussi.
Il y a des exemples concrets quand même en France dans l'OpenGov. Sur la manière d'enrichir et de prendre les décisions politiques. Alors, par exemple, Axel Le Maire, secrétaire d'État au numérique, a fait adopter une loi dite de la République numérique, qui avant cela avait été soumise aux internautes. Alors, je donne juste quelques chiffres pour que les auditeurs se rendent compte. 8500 contributions, 137 000 visiteurs uniques. Résultat, une loi adoptée à l'unanimité. C'est ce genre de projet que vous voulez promouvoir, dont vous voulez qu'elle se multiplie?
C'est ça, c'est ce genre de projet. C'est-à-dire que, au-delà, en effet, des engagements qu'un gouvernement peut prendre, ou que des administrations peuvent prendre, au-delà de toutes ces concrétisations qui sont vraiment importantes, donc les consultations, par exemple, qui on apprend aussi en marchant, hein, les consultations qui peuvent s'améliorer et qui vont s'améliorer, mais qui sont déjà vraiment de prendre en compte, dont l'objectif est vraiment de prendre en compte la vie du citoyen, la création de la haute autorité pour la transparence de la vie publique et la mise à disposition des données de cette haute autorité. En open data, la plateforme open data avec toutes les administrations qui contribuent pour mettre à disposition leurs données, tout ça c'est ce qu'on peut dire des victoires, des pas, on avance, mais en fait c'est aussi une culture et c'est la culture un peu la culture du numérique, c'est-à-dire la culture du dialogue, de l'ouverture, c'est que une administration peut s'adresser directement à un citoyen, un politique peut répondre directement à un citoyen à travers les réseaux sociaux, à travers le numérique, il y a des outils qui se développent qui sont vraiment bien faits et donc c'est aussi cette culture qu'on fait avancer. Donc c'est un tout, c'est la diffusion de cette culture et c'est les actions concrètes que petit à petit on met en œuvre et qui font avancer en effet la transparence, l'ouverture et la co-construction de l'action publique avec le citoyen.
Alors Amélie Bonzet nous disait tout à l'heure que ce sommet c'était aussi l'occasion de convaincre les politiques. Lancelot Péquet, dans votre association République Citoyenne, c'est ce travail aussi que vous faites ? Vous allez voir des élus pour essayer de développer les projets type cette loi dont on vient de parler ou bien la mairie de Paris qui a confié aussi la gestion de 5% de son budget aux Parisiens. C'est ce genre d'initiative que vous poussez ?
Alors d'abord, la mission de République Citoyenne, c'est de stimuler l'esprit critique des citoyens sur les questions démocratiques et en particulier sur le gouvernement ouvert.
Donc, c'est plutôt la société civile.
C'est la société civile, mais en même temps, c'est aussi faire prendre conscience aux politiques qu'encore une fois, quand on fait du gouvernement ouvert, faut vraiment le faire sérieusement et pas faire semblant. Donc je voudrais revenir sur ce qui vient d'être dit, puisque il y a un certain nombre d'associations qui estiment que la loi République numérique est une catastrophe. Parce que précisément, alors qu'elle était censée... comme en fait on avait des slogans du type « Écrivons ensemble la loi numérique », on invitait les gens comme ça à donner leur avis et on leur expliquait qu'ils allaient faire la loi. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les propositions les plus plébiscitées sur la plateforme n'ont pas été retenues dans la première version du projet de loi du cabinet de la ministre, parce que manifestement, des lobbies s'étaient exprimés, mais d'une manière discrète, ou en tout cas sous le radar, qui leur permettait par exemple de faire supprimer une proposition extrêmement plébiscitée qui était l'utilisation du logiciel libre dans l'administration, parce que ça n'arrangeait pas un certain nombre de personnes manifestement. En tout cas, le terme logiciel libre, ou même open source qui est parfois utilisé à la place du terme logiciel libre, n'apparaissait même pas dans le texte. Ou bien, alors qu'on parlait des communs numériques tout à l'heure, je l'évoquais,
Il y a aussi ce reproche qu'on fait, par exemple, sur la mairie de Paris. On dit oui, bon, bah, c'est vrai, Anne Hidalgo a consulté les Parisiens, mais par exemple, pas sur des grosses décisions type la fermeture des voies sur berge. C'est ça aussi que vous voulez dire, un peu de poids de mesure ?
Non, mais ce que je veux dire, c'est que d'un côté, il y a une partie émergée de l'iceberg où tout a l'air de bien se passer, où en tout cas les politiques ont tout intérêt à expliquer à tout le monde que c'est super d'organiser des consultations citoyennes, etc. Et il y a la partie immergée de l'iceberg, où vous avez des choses extrêmement graves qui peuvent se passer, comme par exemple un état d'urgence qui dure depuis plus d'un an, et on organise la COP21 de la démocratie dans un pays qui est en état d'urgence pour une durée encore indéterminée.
C'est ce que vous pointiez du doigt, voilà. c'est les formes de contradiction.
Voilà.
Peut-être, Amélie Bonzet, il y a aussi quelque chose qu'on dit souvent, c'est que les initiatives dont on vient de parler, elles contournent un peu les corps intermédiaires et tout ça. C'est là aussi, la réticence, elle vient de là.
Voilà, alors ce que je comprends tout à fait, en effet, que quand on dit écrivez la loi avec nous, ce soit frustrant que tout ce qui a été proposé sur une plateforme ne soit pas pris en compte dans une loi, mais on est quand même dans une société qui a des institutions qui sont des institutions qui sont solides, qui sont des institutions aussi qui sont d'ailleurs, entre autres, où c'est un certain nombre, pour les lois, les parlementaires sont élus, donc c'est des gens qui représentent, on est dans une démocratie représentative, et donc à un moment
donc,
donné...
C'est pour ça qu'on fait le 49-3 en même temps qu'on fait la consultation.
Ces institutions existent encore. Alors, il y a deux choses. Il y a la consultation sur la loi numérique. Il y a un certain nombre d'amendements qui ont été proposés par les citoyens, qui ont été soumis dans le chemin législatif qui existe aujourd'hui. Tous, ils ont tous été soumis. Après, ce sont les parlementaires qui ont décidé. C'est le débat parlementaire. Ces institutions existent. On ne peut pas aujourd'hui. Enfin, c'est pas demain que tout ça, ça va être transformé.
L'Enveloppe l'OpenGov, ce serait par exemple supprimer le Parlement, la représentativité,
alors,
par exemple.
Il y a des gens qui pensent à ça avec la démocratie liquide, mais en l'occurrence, l'OpenGov peut tout à fait s'exprimer de manière extrêmement positive, y compris dans le cadre institutionnel d'aujourd'hui, à partir du moment où on n'a pas, encore une fois, ce double discours. Quand le gouvernement travaille avec une plateforme qui écrit partout qu'elle est du logiciel, qu'elle est ouverte, etc., qu'elle respecte un certain nombre de principes très précis, et qu'en fait, c'est faux, je veux dire, c'est faux.
Peut-être qu'en fait, on peut vous mettre d'accord sur une chose, c'est qu'on est juste au début du chemin.
On est au début du chemin. Il y a beaucoup de progrès à faire. Il faut que les choses changent, puisqu'on est dans une période où il faut que ça évolue, et ça évolue très, très vite. Et donc, il faut que l'État, l'administration, les collectivités territoriales, le Parlement, qui ont participé à ce sommet, qui sont tous mobilisés dans cette réflexion, avancent. Je pense que, le citoyen, demain, n'écrira pas la loi. Ce ne sont pas des associations qui écriront la loi. Et ça rassure. Mais je pense que c'est dit avec toutes les précautions derrière, que le citoyen sait que nous avons des institutions et nous devons les respecter aussi. Elles doivent avancer, elles doivent se transformer, elles doivent changer, et ça, elles le savent, et ça, elles font partie de cette réflexion.
Et ce qui est certain, c'est qu'il y a une envie d'agir en ligne. On parlait du numérique, on le voit très bien, par exemple, avec le succès de la plateforme de pétition change.org. C'est de ça dont vous parlez quand vous dites Lancelot Péquet, oui, Péquet, pas Pesquet, pas comme notre spécialiste.
Non, en effet.
Donc, effectivement, aller chercher les gens, parce qu'ils ne savent pas nécessairement, finalement, que ça existe et qu'il y a tout ça qui est en train d'émerger.
Oui, non, mais en fait, le problème des... Enfin, les plateformes en ligne, c'est intéressant. Mais de la même manière, les plateformes de pétition, c'est des endroits où, en fait, on incite les gens à aller cliquer en disant « je suis pour, je suis contre ». C'est pas forcément un lieu de discussion. En fait, on a besoin de discussion. Et pour qu'il y ait une discussion qui se passe bien, il faut qu'on fixe les règles du jeu. Aujourd'hui, les règles du jeu sont faussées. Parce que on a d'un côté, on nous explique que les processus de discussion, de décision vont bien se passer, vont être transparents, vont être ouverts, vont être tout ce qu'on veut, etc. Or, ça n'est pas le cas, ou pas suffisamment. Et en tout cas, dans les conditions actuelles, on ne peut pas prétendre qu'on fait du gouvernement ouvert. Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est tout à fait d'accord pour discuter, pour travailler avec les institutions, travailler avec les parlementaires, travailler avec les gouvernements. Et le problème se pose dans différents pays. Simplement, il faut fixer les règles du jeu, et pas faire semblant, comme c'est trop le cas encore aujourd'hui.
Amélie Bonzet,
je suis pas tout à fait d'accord avec le terme faire semblant. On commence, on est au début du chemin, comme vous dites. Je pense que on commence le dialogue, la discussion. On en est conscient, on avance ensemble, parce que je pense que même les associations qui sont parfois expertes et très pointues sur leur sujet n'ont pas la solution de comment transformer totalement nos institutions et notre façon de travailler pour que demain.
Et puis elles sont certainement pas d'accord sur la manière de transformer les institutions.
C'est un dialogue total avec toute la population qui doit être menée, et on avance et on commence à le mener, ce dialogue.
On s'arrêtera là, merci beaucoup, c'est déjà terminé, désolé. Amélie Bonzet, responsable des affaires internationales d'Etalab, Lancelot Péquet, fondateur de l'association République Citoyenne, vous avez un site internet si les auditeurs veulent aller voir. Merci également à Florence Ponce et à Hélène Avril, on se retrouve lundi pour un nouveau débat.
Appelez-nous, exprimez-vous.